Selon Émilie Pigeon, directrice générale de la Société historique de Saint-Boniface, cette découverte est essentielle pour préserver la mémoire collective de la communauté.
Alors, nous pouvons dire en définitive qu'il y a des registres de sépulture qui indiquent très clairement que 726 enfants ayant 16 mois ou moins, donc un an, 4 mois ou moins, ont été enterrés sur le site de ce cimetière, dans ce cimetière, donc à côté de l'asile Richot. Ces sépultures ont eu lieu entre 1907 et 1912. Et la raison pour laquelle nous nous arrêtons en 1912 avec notre constat est parce que c'est pas spécifié ensuite. Donc, on a un registre de sépulture qui continue, mais ça ne spécifie pas où sont les enterrements. Ça dit simplement qu'ils ont eu lieu à Saint-Norbert. Alors, nous pouvons dire en définitive que ces enterrements, les 726 répertoriés, ont eu lieu dans le cimetière de l'asile Richot. Et selon les sources historiques que nous avons consultées, nous savons qu'il y a eu des exhumations de ce cimetière en 1974, mais nous ne savons pas en définitive que ces enfants qui étaient ensevelis à l'asile Richot ont été exhumés eux aussi. Donc, ils seraient toujours dans ce site, présumément.
Alors, on aimerait un peu d'avoir la précision. Quelle était la mission de l'asile Richot à l'époque et qui étaient les personnes hébergées dans cet établissement? Seulement les enfants ou?
C'était des enfants, c'était aussi des jeunes femmes ou des jeunes filles enceintes, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs familles pour qui une grossesse dans la famille d'une femme non mariée, c'était une once. Donc, on envoyait les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles à cet endroit jusqu'à ce qu'elles donnent naissance et ensuite leur bébé restait à l'orphelinat. Les jeunes filles repartaient ou travaillaient avec les sœurs, étaient appelées des madeleines. Et puis appuyaient donc l'institution à ce niveau-là. Parfois, c'était de leur propre gré, parfois non. Alors, c'est une histoire très complexe. C'est une histoire qui concerne vraiment, nous croyons, l'entièreté de la population de Winnipeg, parce que selon les données démographiques recensées dans les registres d'admission de l'asile Richot, c'est une population qui est... J'ai pas des données pour tous, bien sûr, c'est pas exhaustif, mais ce qu'on sait préliminairement, c'est que c'était une population diverse, mais surtout d'ascendance euro-canadienne. Alors, voilà ce qu'on a retrouvé jusqu'à date dans nos recherches.
Et pourquoi ces sépultures étaient-elles méconnues jusque récemment?
Ces sépultures, la présence des sépultures était connue, mais c'était peut-être pas quantifié. Donc, selon nous, avec ce genre de sources, et moi je parle en tant qu'historienne, il faut faire une analyse quantitative totale de l'entièreté des registres pour en extrapoler des données, pour en extrapoler, dans le fond, des constats. Alors, c'est en faisant ce travail que nous nous sommes rendus compte que les discours publics à propos de ce qui se passe ou ce qui s'est passé à l'asile Richot ne s'alignent pas avec les sources dans nos archives. Alors, nous voulons simplement dire au public qu'il faut faire attention, que des recherches additionnelles sont absolument nécessaires de notre point de vue avant d'avancer des constats absolus sur ce qui a eu lieu.
Alors, Émilie, en quoi cette découverte est-elle importante pour la mémoire collective de la communauté franco-manitobaine?
C'est important parce que c'est la population francophone du Manitoba qui a beaucoup appuyé les ordres catholiques religieux qui ont ouvert et qui ont opéré ces institutions. Nous avons aussi recensé, bien sûr, la présence de beaucoup de francophones parmi les enfants qui ont été admis à l'asile. Alors, c'est vraiment, il faut être conscient que lorsqu'on parle d'un projet domiciliaire ou quoi que ce soit, lorsqu'il y avait des restes humains, il va y avoir des conséquences avec les décisions que l'on prend aujourd'hui à ce niveau-là pour la mémoire collective dans le futur.
Et selon vous, quels sont les risques liés aux projets immobiliers proposés sur ces sites?
Nous ne sommes vraiment pas experts à ce niveau-là. On peut simplement parler du fait qu'il y a une mémoire historique à ce site à préserver. En tant qu'un organisme qui défend, bien sûr, et qui fait la promotion de la protection du patrimoine franco-manitobain, il faut aussi constater que c'est une communauté franco-manitobaine qui a construit plusieurs monuments qui se retrouvent dans la forêt, comme par exemple des chemins de croix qui pourraient être démolis. Alors, lorsqu'on parle de démolir le patrimoine construit d'une communauté comme la communauté franco-manitobaine, il faudrait que la communauté franco-manitobaine, à mon avis, s'implique dans ce genre de décision.
Et y a-t-il de précédents à Winnipeg concernant la perte des sites patrimoniaux ou des cimetières à cause du développement urbain?
Bien sûr. On a, par exemple, ce qui est arrivé au cimetière devant la cathédrale de Saint-Boniface. Ça, c'est un exemple où ça a été réaménagé. Et puis, il y a eu des exhumations. Il y avait aussi, par exemple, lorsqu'on retourne encore plus en arrière au Fort Garry, dans le centre-ville, maintenant, on a des marqueurs qui indiquent où étaient les murs du fort, mais c'est clair qu'il y avait aussi des cimetières pour ces forts-là. Donc, avec le développement urbain, c'est clair qu'on a décidé, la collectivité a décidé, dans le fond, de déplacer ces choses-là, de bâtir par-dessus. Mais en tant que société historique, nous voulons simplement faire un petit rappel aux gens que, bon, l'histoire, c'est important. Et puis, c'est l'histoire de la communauté franco-manitobaine. Et puis, il faut mettre ça en valeur.
Et Émilie, quelles seraient les prochaines étapes pour protéger la mémoire et l'histoire de ce site?
Ben, de notre point de vue, il faut continuer les recherches. Il faudrait vraiment avancer là-dessus. Les recherches qui ont été entreprises à date, de notre point de vue, n'ont pas été exhaustives. Donc, il s'agit de trianguler tous les registres que nous avons, d'avoir des données qualitatives et quantitatives solides afin de vraiment pouvoir déterminer ce qui a eu lieu à cet endroit. L'histoire aussi de l'asile en tant que telle est encore une histoire à écrire, c'est-à-dire quelles étaient les histoires des personnes qui ont passé à travers ce site-là, de celles qui en sont sorties ou de celles qui ont resté et qui y sont toujours. Alors, c'est un projet en cours.
Le projet immobilier proposé par Toshal Development Group vise à transformer la forêt Lémée en un ensemble résidentiel. Toutefois, cette initiative suscite de nombreuses inquiétudes. Des défenseurs du patrimoine et des citoyens réclament une protection accrue pour cette forêt en raison de son importance historique et culturelle. Winnipeg, Gaël Pouillou, pour IGL.